Chapitre 8. La hyène de la Pousta. L'empoisonneuse avait été assez prudente après la mort du prince pour prendre le deuil le plus strict et pour feindre une douleur confinant à la folie. Il ne lui sembla pas suffisant de s'abstenir de tout ce qui pouvait être considéré comme un plaisir quelconque. Elle les bannit de sa demeure et ne laissa aucun visiteur pénétrer dans sa chambre, même au château. Elle laissa même s'accréditer le bruit qu'elle couchait dans un cercueil, sa chambre tendue de drap noir, et passait le jour en prière et en pieuse pratique. Le fait est que la vieille sorcière, les deux femmes de confiance, Ersabet et Yéla, et le père Pistian, étaient les seuls visiteurs admis dans ses appartements. Le curé venait sous le prétexte d'apporter à la veuve les consolations de la religion, mais en réalité pour assouvir sa sensualité. Un certain jour, Bethlémy vint aussi pour présenter ses condoléances à la princesse. Il savait par expérience qu'une carte de visite ne forçait pas sa porte et qu'elle évitait fort adroitement qu'il importunait. Or, il en advint tout différemment. Il fut admis et trouva Saolda vêtue d'une robe noire toute simple, la tête couverte d'un voile de deuil. La sombre simplicité de cette sévère toilette, qu'aucun ornement ne venait relever, semblait prêter un attrait encore plus éblouissant à sa beauté diabolique. Elle lui tendit la main et lui fit signe de s'asseoir. Après l'échange des phrases usuelles, Bethlémy se leva. Vous voulez déjà me quitter ? Fit vivement la princesse. Ne pressentez-vous pas vraiment ce que vous êtes déjà pour moi et ce que j'attends de vous dans l'avenir ? Je suis comme une naufragée qui aperçoit la terre. Toutes mes espérances reposent sur vous. Ne m'abandonnez pas. Et en quoi puis-je vous servir ? Demanda froidement Bethlémy. Ne soyez pas si formaliste, reprit Saolta, et veillez à ne pas me parler sur ce ton réservé. Cela ne saurait vous réussir. Il faut que je vous dise tout, tout, mais ouvrez-moi la voie, si vous en avez le courage. Je vous aime, Bethlémy, de toutes les forces de mon âme énergique. Mon sort repose entre vos mains. Je vous offre ma main. Vous pouvez me sauver, vous seul, si vous ne la refusez pas. Malheur à vous, malheur aux hommes, si vous persistez à me dédaigner. Dès lors, qu'avez-vous à dire ?
Mais je suis honnête, princesse, répondit le jeune gentilhomme. Je ne vous dédaigne pas, mais je ne puis vous aimer.
Vous refusez ma main ? S'écria Saolta. Bethlémy s'inclina très bas, puis se retira. La forte et jadis si cruelle femme tomba à terre et se mit à sangloter. Plus d'une heure durant, un combat violent se livra dans son âme. Elle se leva enfin résignée, froide comme le marbre, et désormais elle était résolue à toutes les extrémités. Tout ce qui s'appelle amour, pitié, ménagement, était désormais arraché de son cœur. Dès maintenant, son seul mot d'ordre serait l'exercice de sa vengeance sur le genre humain, la pratique de la jouissance et de la cruauté. Elle arrêta l'entreprise d'un plan aussi aventureux que téméraire, qu'elle nourrissait secrètement depuis la mort de son mari, et qu'elle se promettait de mener à bonne fin dans toute la mesure de son infernale lubricité, de sa cruauté bestiale et de ses instincts sanguinaires. À la nuit tombante, la vieille sorcière de Parcani introduisit chez la princesse un homme natif de la Pousta, qui ne connaît pas de seigneur. C'était un bétiard, un voleur. Il se nommait Yula Bartani. Il était de petite taille, mais bâti en Hercule et âgé d'une quarantaine d'années.
Sarolta le reçut avec une curiosité non déguisée et le laissa faire le récit des épisodes de sa vie ainsi que de ses crimes, non sans l'avoir au préalable régalé d'une bouteille de vieux Tokay. Une fois, grâce à la perfidie d'une fille galante qu'il aimait, Eula fut amenée à abandonner la Xarna de ses parents et à se joindre à des Sirgeni Ligniev, espèce de bandit dont, à force de courage et d'astuce, il parvint de se faire tellement remarquer que bientôt il devint chef d'une bande de 15 hommes. « Mais tu es mon homme, » dit la princesse, après avoir entendu l'histoire du brigand. « Oh, je vois bien que tu n'es pas un vulgaire cheminot, mais au contraire un de ces hommes résolus qui se dressent devant les tyrans et se vengent de ces hypocrites en leur versant le poison qui infeste nos âmes. Moi aussi j'ai été trahi, foulé aux pieds, et mon seul bonheur serait de me venger des hommes, de les torturer, de les battre, de les maltraiter et de me repaître de leurs dernières convulsions. Je suis riche et puissante. Tu es brave et connais tous les détours de ta sanglante profession. Rien ne saurait nous épouvanter, l'un et l'autre. Il nous faut donc nous lier et faire un contrat. Écoute ce que j'ai à te proposer. Mets toute ta bande à mon service et embauche à ma charge d'autres gens courageux et déterminés et non des novices. Tu te conformeras à tous mes ordres et, quoi que je te commande, tu l'exécuteras aveuglément et à la lettre. Je t'abandonne tout mon butin et te fournirai en outre des vêtements, des armes, des munitions, ainsi que 100 ducats d'or par mois, en échange de quoi tu me livreras tous les prisonniers que tu feras pour en disposer à mon gré. Mon offre t'agrée-t-elle? Bien sûr, dit le métier en riant. Et je suis tout prêt à m'engager pour la besogne. De quelle façon? Par serment et promesse solennelle. Là-dessus, le brigand tendit sa main brune et robuste à la princesse. Cette dernière la prit amicalement, puis le métier posa le doigt sur le crucifix qui se trouvait sur le prie-dieu de Sarolta et jura foi et obéissance à celle-ci. Elle suivit son exemple et l'assura par un serment solennel qu'elle tiendrait toutes les promesses qu'elle lui avait faites. Ainsi fut conclu le terrible pacte. Bientôt, tous les environs furent épouvantés par les incursions d'une bande de brigands qui, en nombre, armement, audace et particulièrement en cruauté, dépassaient tout ce que l'on avait vu jusque-là. Jusque-là, en effet, on avait supporté avec patience, presque même avec sérénité, les déprédations des brigands comme une plaie inévitable. Les rapports des pauvres garçons avec la population étaient excellents. Ils ne faisaient aucun mal aux gens qui leur payaient un tribut en espèces ou en nature et ne dénonçaient pas aux patrouilles de Pandour. Sur le grand chemin, ils pillaient les riches propriétaires, les bourgeois et les prêtres, mais n'en maltraitaient aucun. Ils ne versaient le sang que là où on leur offrait de la résistance à main armée ou bien où on les livrait à la police. Mais un jour, il arriva que cette bande se livra à une orgie de dévastation et de meurtre et n'épargna personne. Quiconque tombait entre ses mains subissait d'affreuses tortures, était mutilé et mis à mort. Les châteaux seigneuriaux, les couvents, les cures étaient par elle mis à sac et incendiés. Elle détruisait sans merci ce qu'elle ne pouvait emporter. Les juges, les autorités de l'endroit, les pandours eux-mêmes se trouvaient désarmés à l'égard de cette horde sanguinaire. On dut appeler la troupe, mais sans meilleur résultat. Il ne se trouva bientôt plus personne dans le pays pour fournir aux représentants de la loi non seulement aucune indication utile à la recherche des brigands, mais faire même un seul coup d'œil de nature à les trahir. Les gens qui, çà et là, se risquaient à dénoncer la bande et tombaient entre ses mains, disparaissaient d'une façon imprévue ou étaient trouvés affreusement mutilés et mis à mort. Chez les gens du peuple, les légendes les plus extravagantes et les plus étranges couraient sur cette bande terrible et trouvaient aussi un écho dans les châteaux et chez les autorités du canton. Le bruit courait que ces brigands avaient à leur tête une femme aussi belle que cruelle et sanguinaire, laquelle, après s'être livrée à des jeux voluptueux avec ses victimes, les mettait ensuite à mort au moyen des tourments les plus barbares qu'une femme sans cœur et dégénérée puisse inventer. Bientôt, cette créature horrible et mystérieuse ne fut plus connue que sous le nom de hyène de la Pousta. Les mères menaçaient leurs enfants et personne ne doutait qu'elle se cachât sous un masque noir. C'est d'ailleurs ce que les maris ne cessaient de dire en tremblant à leurs femmes, les amants à leurs maîtresses, les frères à leurs sœurs. Chapitre 9. Dans le filet. L'année de deuil était écoulée. La princesse Parcanie paraissait toujours en proie à la plus profonde douleur par suite de la mort de son mari et affectait toujours un chagrin tel qu'elle se décida fine et difficilement à fréquenter le monde. Enfin, elle se mit à rendre et à recevoir des visites de ses voisins, puis elle fit un pas de plus et lança des invitations, tout d'abord pour des dîners intimes, puis enfin à de grandes soirées et à des chasses. Finalement, comme l'hiver revêtait la terreur de ses fourrures de neige, elle organisa des parties de traîneaux. Et les fouets claquèrent, les fusils partirent, les bouchons de champagne sautèrent joyeusement d'à Parcanis, comme au temps où son noble propriétaire était encore en vie. Après son mariage avec le prince, Saolta, parmi les aristocrates familles du pays, ne s'était encore liée intimement qu'avec une certaine comtesse Balatoni, riche et intelligente veuve d'une cinquantaine d'années, et ses deux filles. Un soir de décembre, comme il gelait à pierre fendre, Sarolta se trouvait auprès de la cheminée de la galerie sociale du château de Baratoni avec les trois dames, et toutes quatre fumaient, tout en causant, des cigarettes que la princesse roulait fort adroitement avec du tabac turc de premier choix. Sur ces entrefaites, une femme de chambre tendit à la maîtresse du château sur un plateau d'argent une carte de visite que celle-ci lut sans cérémonie: Baron Steinfeld. Saolta se prit à trembler et ses lèvres blêmirent. Puis, se ressaisissant, Steinfeld, dit-elle, n'est-ce pas le gentilhomme qui fut jadis victime d'un attentat? Lui-même, répondit la comtesse. Oh, il fut très grièvement blessé d'une façon absolument énigmatique aux côtés de sa femme, mais grâce à la science d'un médecin, il parvint à se rétablir. Le baron lui-même se chargea de fournir de plus amples explications. Depuis cette catastrophe qui avait failli lui coûter la vie au château de Goldrain, Steinfeld avait singulièrement vieilli. Ses cheveux et toute sa barbe qu'il portait maintenant étaient complètement grisonnants. Sa face blafarde était sillonnée de rides profondes gravées par le sort qu'il avait enduré. Son port avait changé et était devenu absolument raide et empesé. Seuls ses yeux conservaient encore leur lueur du passé. Mais son ancienne maîtresse semblait toujours aussi jeune. Il eût été difficile d'établir un lien entre Anna Clauer, la fille de pauvres ouvriers devenue plus tard la maîtresse du baron et la princesse Sarolta Parcani. Ses cheveux blonds dorés lui donnaient une expression complètement différente, encore bien plus voluptueuse, grâce à son teint devenu plus mat et plus délicat. Finalement, sa superbe poitrine paraissait encore plus pleine et plus majestueuse. C'est pourquoi le baron Steinfeld ne put la reconnaître, d'autant moins qu'elle s'abstint de parler beaucoup et que d'ailleurs le son de sa voix avait perdu sa fraîcheur première et qu'au lieu du charmant dialecte viennois, elle parlait maintenant la belle mais froide langue hanovrienne. La conversation devint bientôt des plus animées. Sarolta apprit ainsi que Steinfeld avait acheté des propriétés situées près de Kurzheim, jouxtant celles de la comtesse, sur laquelle il s'était établi avec sa femme et les deux filles qu'elle lui avait données. Et elle devina bientôt qu'il n'était pas heureux en ménage et que son union était troublée par de sombres chagrins qui lui avaient ravi toutes ses illusions. Dès que la princesse eut appris la conviction que Steinfeld ne la reconnaissait pas, ne soupçonnait même pas qu'il l'avait sous les yeux, elle se mit avec une adresse audacieuse à lui décocher toutes les flèches de sa coquetterie. Steinfeld, qui dès le premier moment s'était senti ébloui par la beauté démoniaque de la princesse, se laissa de plus en plus prendre à chaque coup d'œil que lançaient ses yeux profonds et dominateurs. Après s'être vu plus d'une fois trompé dans son idéal, ou par sa propre passion laissé conduire au bord de l'abîme, le baron, comme tous les hommes blasés et fatigués de jouissance, on était arrivé au point où une épouse douce, bonne et affectueuse n'offre plus aucun attrait, où les nerfs détendus désirent à tout prix l'excitation et les fantaisies, et que rien ne peut plus stimuler ou enflammer. Sinon, les tortures qu'une femme sans cœur, coquette et cruelle, inflige à l'homme assez faible pour devenir réellement, comme au figuré, son marchepied, et où la vie devient une jouissance et une volupté en raison même de la perfidie de la bien-aimée. Le baron Steinfeld, pour qui, comparé à la fidélité à l'affection de sa femme, dont l'amour se bornait à lui témoigner ce qui constitue la pratique des vertus domestiques, la haine et le mépris d'une femme personnelle altière aurait été un vrai délice et une consolation, sentit sa tête tourner aux éclats de rire provocateurs et aux paroles cajoleuses de Sarolta. Il devina chez elle une de ces natures impérieuses, enflammées et sans pitié, qui lui annonçait tout ce qu'il souhaitait maintenant, et lui dès lui vint qu'elle l'exhortait clairement à s'approcher d'elle. Cette pensée le fit frémir d'aise comme un enfant qui se sent calmé. La princesse, en prenant congé de lui de la façon la plus aimable, l'invita à lui rendre visite. Il la remercia avec joie, mais avec une gaucherie non équivoque. Or, avant même qu'il pût utiliser la permission que lui avait octroyée Sarolta de lui rendre visite, un hussard à cheval apporta, pour lui et sa femme, une invitation de la part de la princesse à une chasse aux loups qu'elle donnait à Parcani. Au jour fixé, toute la noblesse du voisinage se trouva réunie au château princier. Seigneurs et dames, vêtus de leurs riches et saillants costumes à la mode hongroise, arrivèrent de toutes parts en traîneaux fantastiques, représentant cygnes, lions, griffons ou dragons jetant des flammes. Il avait été décidé que chaque dame serait, pour la protéger et la servir, accompagnée d'un cavalier tiré au sort. Chaque traîneau devait contenir deux couples. Néanmoins, le hasard ne fut pas seul à décider que le baron Steinfeld et sa femme seraient les compagnons de la princesse. Comme les couples s'ébranlaient pour gagner la forêt où les loups avaient été cernés à la suite d'une battue puis pris au piège, le baron fut saisi d'une espèce de honte d'avoir toléré, à contre-cœur, que ce démon femelle qu'était Sarolta fût placé à côté de sa propre femme. La discrète petite baronne avait l'air littéralement gelée malgré son épaisse pelisse. Son bonnet de fourrure lui donnait l'air irragé et elle se blottissait craintivement dans un coin du traîneau où elle avait pris place avec un certain seigneur de Werménie, de façon qu'elle ne pouvait inspirer d'autres sentiments que la pitié. En revanche, la princesse, enveloppée de sa fourrure d'hermine doublée de velours noir, sa kalchma de même fourrure coquettement posée sur les boucles de sa chevelure, paraissait rayonnante dans sa superbe beauté et trônait réellement au milieu de sa soyeuse peau d'ours. Le froid faisait seulement ressortir la fraîcheur florissante de son visage, et elle conduisait l'attelage de ses propres mains avec l'élégance et la sûreté d'une véritable amazone. La chasse commença. Les chasseurs s'établirent à l'une des lisières du bois, puis les grillages furent enlevés de ce côté et des centaines de rabatteurs, jetant de grands cris, se mirent à pousser devant eux et vers les chasseurs les bêtes affolées. « Ah, vous n'avez pas de fusil, princesse, » dit le baron à Sarolta. « Ne voulez-vous pas tirer? Avez-vous quelque pitié des fauves ?» La belle femme se mit à rire. « Au contraire, j'attends seulement le moment où les loups sortiront du bois pour m'élancer en selle et me jeter sur eux avec mes chiens. C'est là le vrai plaisir de la chasse. » Quand on fournit aux bêtes l'occasion de s'échapper. Lorsqu'elles ont employé toutes leurs forces et ruses pour se sauver, et que finalement elles se voient serrées de tous côtés, elles reviennent au piège et, tremblantes à l'agonie, attendent le coup de grâce. C'est ainsi que moi-même je conçois l'amour. « Vous êtes une femme étrange, extraordinaire, » murmura le baron. Vous inspirez à l'homme une espèce d'effroi qu'il ressent de plus en plus grâce au pouvoir magique et diabolique que vous exercez sur lui. Serait-ce là l'effet que j'ai produit sur vous? Fit Sarolta, regardant Steinfeld de ses grands yeux calmes et le pénétrant, pour ainsi dire, jusqu'au fond de l'âme. Il trembla sous son regard et ne trouva pas un mot de réponse. « Vous taisez ?» dit la princesse en riant. Ce rire déconcerta le baron plus encore que les regards ou les paroles de cette femme. Elle ajouta « Ah, je lis maintenant que ta face, sur ta face, la réponse à ma question. Oserais-je vous dire ce que je pense? Vous me comparez à votre chère et mignonne épouse. Et vous vous dites que vous éprouveriez infiniment plus de délices à être mon esclave que vous n'en éprouvez à être son maître. « Princesse, moi !» bégaya Steinfeld. « Oh, vous ne pouvez rien me cacher, » continua Sarolta, « rien de vos plus secrètes pensées. Vous n'êtes plus heureux. Votre femme vous mène par le nez, les oreilles. » « Et quand ce serait le cas ?» fit péniblement le baron. « Alors, tranquillisez-vous, » reprit la princesse, avec une telle assurance qu'elle désarma le baron. « Il vous faut conserver ce plaisir et le partager avec toutes les souffrances qui sont attachées, toutes les souffrances qu'une pareille femme peut infliger à un honnête homme comme vous, fou d'illusions, quoique si heureux. » Votre femme ne peut combler vos vœux insensés. Quant à moi, je puis encore baron, si vous m'aimez, si vous m'adorez. Oh, je puis encore, dis-je, me rire de vous, comme l'enfer quand il triomphe. Mais il me semble qu'il est temps de monter à cheval. Ne voyez-vous pas les loups venir? Alors, Sarolta s'élança à bas du traîneau, et de là, sur le dos de son arabe, avant même que le baron ait eu le temps de l'aider. Il trouva un cheval tout prêt pour lui. À peine l'avait-il monté que les chiens furent lâchés et que la chasse à courre commença. En vain le loup, qui était en butte aux balles des chasseurs, chercha-t-il à les éviter et à regagner sa liberté pour échapper à ses persécuteurs. Après une course effrénée d'environ 4 heures, il se jeta dans les palissades conduisant à la fosse aux loups. Mais déjà la princesse s'y trouvait. Le fauve essaya en vain d'éviter la poursuite dont il était l'objet. Les chiens le saisirent dans l'enclos et le déchirèrent à belles dents. Sarolta sauva vivement à bas de sa monture et, les yeux étincelants d'une joie sanguinaire, lui plongea un yatagan dans la gorge. Comme le loup tombait mort aux pieds de la princesse, Steinfeld, qui venait de mettre pied à terre, dit à Sarolta: Cette scène a pour moi une signification symbolique. Une voix intérieure me dit que c'est là le sort même qui m'attend. Serait-ce un présage? Vous êtes arrivé trop tard, fit malicieusement Sarolta, car vous êtes déjà pris. Je vous tiens dans mes filets et n'ai plus qu'à vous donner le coup de grâce. Chapitre 10 Le bain de sang. Le baron Steinfeld était maintenant le commensal habituel du château Parcany. Sarolta se jouait de lui d'une façon si invraisemblablement raffinée que c'est cet homme blasé dont les caprices paralysaient la volonté, dont les esprits paraissaient anéantis, l'ardeur première de la jeunesse ne s'éveillait que sous l'empire de la passion, et que seule cette dernière faisait battre son cœur enseveli sous la lave des années écoulées. Il aimait la princesse Parcany comme il n'avait jamais aimé ni sa propre femme, ni même Anna Klauer. Mais plus elle lui donnait à entendre qu'il n'avait aucune place à prendre dans sa vie, pas la moindre, que chaque heure qu'elle lui accordait, il la lui dérobait comme un vulgaire et importun mendiant, plus il quémandait son amour par cela même qu'il sentait qu'elle souffrait de sa présence. Sarolta se repaissait des tortures qu'elle lui infligeait ainsi, et rien n'égalait la jouissance qu'il lui procurait lorsque, étendu sur un moelleux canapé, lui-même vautré dans la poussière, il appliquait avec ferveur ses lèvres sur les pieds de la princesse, demandant grâce, soupirant et pleurant après un mot d'amour. Alors elle se prenait à rire et le congédiait du pied, ou bien encore elle s'emparait du fouet dont elle usait à l'égard de sa meute et l'en frappait comme un esclave. Non, non, comme un chien, et il jouissait de ses mauvais traitements comme jamais il ne l'avait fait, comblé d'amour et de caresses dans les bras de sa femme. Lorsque Sarolta l'eut enfin amené à un état voisin de la démence et qu'il eut menacé de se prendre la vie si elle ne l'écoutait pas, elle lui signifia, avec une froide hauteur, qu'elle n'était pas femme à partager avec d'autres le cœur d'un homme, et posait comme condition à ses faveurs la seule qu'elle pût décemment accepter, c'est-à-dire la place de sa femme et de ses enfants. Elle voulait ainsi ne pas précipiter son œuvre de vengeance, mais au contraire la goûter lentement, pas à pas. Steinfeld était prêt à tous les sacrifices. Son unique pensée était de posséder la belle et démoniaque femme. C'était là son seul désir. Il partit pour Pesth. Là, il n'eut pas le courage de faire personnellement à sa femme la déclaration foudroyante qu'il ne l'aimait pas, ne l'avait jamais aimée, et se sentait incapable de demeurer plus longtemps avec elle. Il la lui fit par une lettre dont les termes avaient été discutés par Sarolta elle-même. En même temps, il assigna comme résidence à sa femme et à ses enfants le château de Goldrain en Bohême. La pauvre petite femme s'évanouit à la lecture de cette lettre et passa 3 jours et 3 nuits dans une crise de larmes sans se déshabiller. Puis elle fit ses préparatifs de voyage. Comme elle montait en voiture avec ses enfants, Sarolta surgit soudain devant elle et lui cria « Bon voyage, baronne. Avant de quitter ces lieux, sachez qui vous en chasse. C'est moi qui vous ai arraché le cœur de votre époux. Il est une justice sur terre. Vous avez privé de son bonheur la pauvre ouvrière Anna Clower, l'avez reléguée au banc du vice et du crime. Et maintenant, la princesse Parcani vous paye de retour. Bon voyage !» Le jour qui suivit le départ de sa femme et de ses enfants, le baron Steinfeld revint sur son domaine et écrivit à Sarolta une lettre remplie de désirs enfiévrés par laquelle il lui rappelait sa promesse et la sommait de l'exécuter. « Ce que j'ai promis, je le tiens. » Telle fut la réponse de la princesse. « Je suis à vous. Venez cette nuit vers 10 heures. Ma camériste de confiance vous attendra à la petite porte de derrière et vous conduira dans ma chambre à coucher. » Steinfeld embrassa la lettre plus de 100 fois. Il ne cessait de la couvrir de baisers, était en vérité dans une jubilation telle qu'il n'en avait jamais connu de pareil dans toute son existence. Il se rêvait déjà le vainqueur de la femme la plus désirable au monde, et son imagination lui dépeignait la conquête de l'altière Sarolta dans les couleurs les plus romanesques. Il n'avait encore jamais, comme aujourd'hui, apporté autant de soins à sa toilette. Son vieux valet de chambre l'avait rarement vu aussi impatient. Rien n'allait. Par 5 fois, il arracha sa cravate et en prit une autre. Enfin, il fut prêt. Il y avait encore 1 heure devant lui pour se rendre à Parcani. Cette heure lui parut un siècle. Il prit le premier livre venu. Ce livre traitait des mystères de Paris, et Steinfeld en lut une scène où, par ses cruels artifices, une jolie créole fait de son adorateur le partisan acharné d'une sensualité touchant à la démence. Le baron se grisait à cette image, et lui semblait que ce devait être une sorte de jouissance de tomber entre les mains d'une femme aussi impitoyable. Il ne se doutait pas qu'il était lui-même bien près d'éprouver pareil sort. Bientôt, il jeta le roman de côté et se rendit aux écuries où il sella lui-même son cheval. Quand ce fut fait, il se rendit dans la salle de ses domestiques et causa avec tous en fumant un havane. Enfin, l'horloge du château sonna 9 heures. Le baron bondit, monta en selle et piqua des deux. Les plus douces images surgirent à son esprit en cours de route. Il vit en imagination Sarolta l'attendant, revêtue d'un vêtement nuptial. Son cœur battit fort, les battements de son pouls décuplèrent. Il ne voyait ni à droite ni à gauche, son regard était complètement concentré sur lui-même. À mi-chemin, il parvint à une chapelle qui avait été érigée à l'endroit même où un riche bourgeois avait été assassiné par des brigands. À ce même instant, 2 coups de feu retentirent. Le cheval de Steinfeld tomba foudroyé, et le baron lui-même fut pris dessous la bête et demeura complètement à la merci d'hommes à la face noircie qui avaient bondi sur lui d'une ferme fourrée voisin et n'eurent aucune peine à le maîtriser et à le ligoter. Il ne put douter qu'il était tombé entre les mains d'un bandit et prit son sort en philosophe. « Dites-moi, pauvre garçon, s'écria-t-il, rendez-moi la liberté et vous gagnerez une grosse somme. Je suis attendu par une belle femme et vous comprenez que c'est là pour moi une aventure bien désagréable que d'être ainsi tombé entre vos mains. » Les brigands se prirent à rire et l'un d'eux, qui paraissait leur chef, lui dit « Non, ben, nous ne pouvons te relâcher, baron. » Mais nous allons incontinent conduire tout de même à une jolie femme. Comment ça? Oh, tu la connais bien, tout au moins de réputation, fit en raillant le bandit. Les gens du pays l'appellent la hyène de la Pousta. Pour l'amour de Dieu, s'écria le baron, ayez pitié de moi. Mais les brigands ne se laissèrent pas plus attendrir par ses supplications que tenté par la somme qu'il leur offrait. Ils le bâillonnèrent, lui jetèrent un drap sur la tête, le montèrent sur un cheval et l'emmenèrent avec eux dans une course folle. Lorsqu'on lui eut retiré ses liens et enlevé drap et bâillon, le baron Steinfeld se trouva dans une pièce voûtée et sans fenêtre, dont l'architecture ressemblait à celle des châteaux forts du Moyen-Âge, mais dont l'ameublement luxueux rappelait le boudoir d'une grande dame. La personne qui avait amené Steinfeld le laissa dans cette pièce et referma une lourde porte de fer derrière lui. Néanmoins, le baron ne reste pas longtemps seul. Bientôt, il entendit dans la pièce voisine le frou-frou d'un vêtement de femme, puis la lourde portière qui cachait la porte s'entr'ouvrit. Une grande et majestueuse femme, toute vêtue de velours noir, enveloppée d'un voile, le visage recouvert d'un masque de velours noir, entra et mesura le bâton d'un regard qui lui glaça le sang dans les veines. « Me connais-tu ? » fit une voix bien connue. « Princesse !» s'écria Steinfeld, soudain délivré de toute angoisse. « C'est vous-même, et tout cela n'est donc qu'une plaisanterie. »« Il n'y a pas de plaisanterie, baron, mais une effroyable réalité, » répondit la dame masquée. « Me connais-tu vraiment bien ?»« Non. » Fort bien, alors je vais alors te venir en aide, misérable, s'écriait-elle en arrachant son masque et rejetant son voile. C'était bien la princesse, mais elle avait teint ses cheveux en noir, de façon que Steinfeld la reconnut sur le champ. À de la clameur, balbutia-t-il avec terreur. Oui, Anna Clauer, dit-elle, les bras croisés sur la poitrine. La pauvre ouvrière que tu as séduite, que tu as ravie au travail béni, corrompue par ton luxe, pour l'abandonner ensuite et la reléguer dans le vice. C'est Anna Clauer qui a noyé ton enfant et le sien, qui faillit à Goldrin t'arracher la vie d'un coup de pistolet. Maintenant redoute Sarolta Parcani, qui empoisonna son époux, et s'est lié à des brigands pour le doux plaisir de se venger des hommes et par-dessus tout le toit. Regarde-moi bien. Je suis la femme qui fait trembler des milliers de gens, que tout le monde considère capable des pires assassinats sanguinaires, de toutes les cruautés, la hyène de la Pousta. Grâce, grâce, implora le baron, tombant sur ses genoux. Pour toute réponse, elle lui lança un éclat de rire haineux et impitoyable, tout en frappant dans ses mains. Aussitôt ses deux servantes, Hersabet et Yéla, l'une et l'autre vêtues de velours couleur de sang, s'élancèrent de la pièce voisine, s'emparèrent de Steinfeld, lui lièrent les mains au dos, puis lui mirent des fers aux pieds. « Mais que veux-tu faire de moi ?» demanda le malheureux tremblant de tous ses membres. « Te juger !» répondit-elle avec une majesté démoniaque. « Tu vas me tuer ? » s'écria-t-il. « Sûrement, mais j'entends que tu meurs à petit feu !» fit-elle haineusement. Un coup de poignard ou un breuvage empoisonné serait pour toi un soulagement qui ne saurait me satisfaire. Ayez pitié de moi, Anna, j'arrangerai tout, gémit Steinfeld. Elle ne l'écouta pas. Sur un coup d'œil d'elle, les filles l'entraînèrent dans la pièce voisine, semblable en tout à une chambre de torture, et dans un coin de laquelle se trouvait une baignoire de marbre à laquelle conduisaient quatre marches. Sarolta s'étendit nonchalamment sur un sofa qui se trouvait tout proche, puis dit aux filles « Faites ce que je vous ai commandé, et ne demandez plus rien, que je puisse me repaître tranquillement des souffrances de ce misérable. » Les deux filles soulevèrent Steinfeld et le pendirent à un crochet, après lui avoir retourné les bras en arrière, de telle façon qu'il fut suspendu à un pied de terre comme un torturé. Puis elles placèrent un grand poêle au-dessous de lui et allumèrent un grand feu. Jusque-là, la victime de la hyène n'avait articulé aucune plainte. Mais dès que les flammes commencèrent à lécher la plante de ses pieds, il poussa un léger soupir et pleura de douleur. Puis il se mit à hurler et se démener comme un enragé. Ses nerfs distendus ne pouvaient supporter ce tourment. Néanmoins, il le fallut bien. Plus il délirait de souffrance, plus la cruelle femme riait, étendue sur le canapé, et plus les deux épouvantables mégères attisaient le feu. Comme enfin ces dernières l'abandonnèrent, il tomba à terre comme une souche de bois. « En voici assez, mais laissez-moi mourir !» murmura-t-il. « Pas encore !» crièrent les filles. Elles paraissaient éprouver une jouissance bestiale à martyriser la pauvre victime sans défense. Elles posèrent Steinfeld à terre sur le dos et l'enchaînèrent solidement sur le plancher. Puis elles lui appliquèrent aux pieds les brodequins, le plus effroyable instrument de torture que l'imagination des bourreaux espagnols ait jamais inventé. Elles délièrent les mains, puis lui placèrent les doigts dans des poussettes à étau qui lui firent gicler le sang des ongles. Par bonheur pour lui, il perdit connaissance. On appela la vieille et elle le rafraîchit, puis dit « Finissez-en avec lui, ma douce petite colombe de Sarolta. Il est trop bas. Il n'en a pas pour longtemps. Mais si je ne veux pas, s'écria la belle hyène en trépignant du pied de colère. Alors il sera mort avant, répondit la sorcière. C'est bien, alors arrêtez, ordonna Sarolta à ses deux valets de bourreau, femelles, qui remisèrent de suite les instruments de torture et détachèrent Steinfeld. Emploie toutes les ressources de ton art, la vieille, pour le faire revenir à lui. Il lui faut reprendre connaissance et la conserver jusqu'au bout. » La sorcière revint avec toutes sortes de fioles et de flacons et se mit aussitôt à la besogne. Après quelques petits soins, Steinfeld agita les paupières et la regarda. « Mais cela t'a-t-il coûté la vie ?» s'écria Sarolta. « Mais tu es assez expié et la plus belle récompense t'attend. Viens à moi, Je veux être clémente et te donner la vie, et me donner à toi. Viens, nous allons célébrer notre noce.
Serait-ce vrai, Anna? Plus de nouvelles cruautés? Demanda Steinfeld, comme sortant d'un mauvais rêve.
Oh, n'en demande pas plus, je suis à toi, s'écria la belle femme, étendant les bras vers lui.
Il chercha à se rapprocher d'elle, mais tomba à moitié chemin. Les filles le soulevèrent, le placèrent aux pieds de Sarolta.
« Si tu es à moi, » bégaya le baron,
tandis qu'elle l'enveloppait de ses superbes bras et l'embrassait. D'un regard, elle congédia les deux servantes. La vieille posa une coûteuse pelisse de zibeline à la tête de la princesse sur le coussin de sofa et se retira pareillement.
« Je veux me rendre plus belle, » dit en riant Sarolta, « aussi belle que Vénus à la Diomène. »
Steinfeld l'aida à se vêtir et lui passa alors la fourrure de zibeline dans laquelle elle s'enveloppa avec une grâce inimitable et qui lui tomba jusqu'à la plante des pieds. Puis elle pressa de ses lèvres diaboliques jusqu'à ce que, fou de jouissance, il retombât à ses pieds.
« Achève-moi, » implora-t-il, plongé dans le ravissement.
« Si fait, » dit Starolta avec un regard sinistre. Un léger bruit se fit entendre et en un clin d'œil, Steinfeld fut de nouveau saisi par les servantes qui l'enchaînèrent alors à un anneau de fer fixé au mur au-dessus de la baignoire de marbre.
« Mais que signifie ? » s'écria-t-il. « Que ne prend-il ? »
« Tu vas bientôt l'apprendre, » dit Sarolta, se levant. Aussitôt, les servantes lui arrachèrent les vêtements.
« Tu m'as ravi ma jeunesse, misérable, » continua Sarolta.
« Bien, tu vas maintenant me la rendre avec ton propre sang. »«
Mais comment suis-je fou ? »
« N'as-tu jamais entendu parler de cette comtesse hongroise ?» qui prenait des bains de sang humain et demeure ainsi éternellement jeune.
Je veux aujourd'hui expérimenter cet étrange secret de beauté.
Mais mon Dieu, mais cela n'est pas possible, gémit Steinfeld. Sûrement je rêve.
Éveille-toi donc, s'écria la belle hyène.
Puis elle jeta sa fourrure et monta dans la baignoire de marbre. Les deux servantes s'avancèrent alors vers l'infortunée, armées chacune d'un fouet pourvu de pointes de fer aiguës, semblables à ceux en usage sous l'Inquisition, et commencèrent leur cruelle besogne. Au bout de quelques coups, leur victime était déjà complètement lacérée, son sang coulait à flots dans la baignoire, inondant la belle femme qui plongeait voluptueusement ses superbes membres dans le sang chaud de la vie et riait aux éclats chaque fois que Steinfeld hurlait comme un vrai possédé. Il ne put bientôt que pousser de légers soupirs et finalement pendit de l'anneau telle une masse inerte, sanglante et sans vie. Alors Clauer était vengé.